Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Et ça se passe à Moscou, ce que vous entendez dans une manifestation contre la réforme des retraites. C'est l'escale reportage d'un jour dans le monde. Une réforme que Poutine a un peu adoucie, mais pas assez sans doute. Retraité en Russie, vous comprendrez ce que c'est grâce à Claude Brouillot, c'est pas rose, croyez-moi. Sous les radars et Amélie Perrier, avec un Saint-Antoine de Padoue restauré en Colombie. Mais les fidèles le voient maquillé et ça ne leur plaît guère. 18h50, bonsoir Bruxelles. La chronique d'avant élection européenne, l'Europe telle que vous la vivez au quotidien, signé Johanna Hochstein. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four, entre le Kosovo et la Serbie, les frontières impossibles, le tabou de la frontière dont on essaie de rediscuter, mais tout de suite c'est en Suède que nous allons, le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Dimanche se jouent donc en Suède les élections législatives que toute l'Europe regarde avec une curiosité mêlée d'une sorte d'effroi ou de fatalisme, finalement. Appelez ça comme vous voudrez, mais objectivement, la vague populiste qui n'a pas fini de recouvrir l'ensemble de l'Europe y travaille, et notamment ici, donc autour de la Suède. La voilà dans ce pays économiquement en meilleure forme que beaucoup d'autres. Un parti, donc les démocrates de Suède, est crédité de 20% des voix, parti populiste et anti-immigration. Bonsoir Wojciech Kalinowski.
Bonsoir.
Vous êtes co-directeur de l'Institut Weber. Vous avez écrit notamment, c'était l'année dernière, le modèle suédois et si la social-démocratie n'était pas morte. Ça a été publié donc l'année dernière, quasiment à la même époque. Et c'est vrai, monsieur Kalinowski, qu'on a une image, une espèce d'image d'Épinal de la Suède avec son modèle. Et on est finalement étonné d'une percée populiste. Est-ce que ça veut dire qu'on a une très mauvaise lecture, finalement, une lecture très caricaturale de ce pays, nous ?
Plus nuancé, en tout cas. Mmh. C'est vrai, je suis souvent saisi par le contraste. Ou bien on dit que la Suède, c'est génial, le modèle, ça marche bien, etc. Et ou bien ensuite, on découvre des nouvelles qui, effectivement, peuvent être mauvaises. Et donc, on dit, ah non, c'est la fin du modèle suédois, c'est la fin de la société, etc. Mmh. Non, je pense qu'il faut raison garder. Et il y a effectivement, vous avez raison, le paysage politique suédois s'est banalisé. Mmh. Il y a maintenant un parti anti-immigration qu'on peut appeler d'extrême droite aux alentours des 20%, je pense que c'est ça que montre le sondage.
Qui arrivera second donc vraisemblablement,
au troisième, on va voir, mais probablement en deuxième position. Néanmoins, je pense que, enfin, sur le plan politique, je pense néanmoins que ces élections vont reconduire plus ou moins le paysage d'avant. C'est-à-dire, vous avez grosso modo deux blocs, une alliance des droites, une alliance des gauches, des tailles comparables. Probablement l'alliance de gauche, donc les sociodémocrates suivis d'un parti de vert et le parti de gauche, auront un peu plus de un score légèrement meilleur, donc ils vont un peu plus de voix. Et entre les deux, il y aura donc
le faiseur de roi, et c'est souvent des faiseurs de roi que sont ces partis-là.
Déjà le gouvernement sortant, c'est un gouvernement minoritaire qui a réussi non seulement de survivre pendant 4 ans, mais en plus passer pas mal de réformes substantielles et nouer pas mal de 26 accords gauche-droite. Donc il y a bien une chance pour que ce gouvernement, ou en tout cas pour un gouvernement minoritaire sans appui de l'extrême droite, après les élections.
Alors, on va y venir doucement, mais enfin quand même, moi je regarde les chiffres, je vois une croissance à 4,5%, ici on se damnerait pour avoir une croissance aussi haute, je vois un chômage à 6,7, et là aussi la moitié de l'Europe se damnerait pour avoir un chiffre à 6,7. Donc on se demande finalement d'où vient cette montée de l'extrême droite, quel que soit finalement le résultat dimanche, l'idée c'est quand même qu'il y a 20%. Donc d'où vient cette montée-là? Est-ce qu'il y a une espèce de, je crois que c'est un terme de Jean-Yves Camus d'ailleurs, une espèce de populisme de prospérité en fait, en Suède, quelque chose qui dit, pour l'instant on va bien, mais on risque d'aller plus mal, donc on se prémunit tout de suite.
Je ne suis pas de cet avis-là, c'est plutôt un populisme, disons, assis sur des indicateurs sociaux, qui se sont quand même bien dégradés. Parce que vous avez parlé, effectivement, la croissance est élevée, le taux d'emploi est élevé, le chômage est très bas. Néanmoins, si vous regardez un peu dans le long terme, ces dernières 25-30 années, les inégalités ont remonté, et surtout, il y a eu une série de rabotages d'économies dans le système des assurances sociales. Donc, ce que fait...
Donc, ça veut dire que l'État-providence, tel qu'on le présente, le fameux État-providence suédois...
Il a des fissures, fissures, ça ne veut pas dire qu'il est mort, cet État-providence, absolument pas. Simplement, beaucoup des Suédois ont vu une dégradation de la situation. Et cela ne date pas d'hier, cela date des années 90. En réalité, l'économie suédoise et la société suédoise ont traversé toute une série d'ajustements plus ou moins libérales. Maintenant, après ces corrections libérales, les sociodémocrates ont commencé, disons, à restaurer les systèmes il y a 4 ans quand ils sont revenus au pouvoir. Ils n'ont pas fait assez, sans doute parce que c'est justement un gouvernement minoritaire. Néanmoins, je pense qu'il y a une vraie bataille autour de l'État-providence, l'école, la santé en premier. Mais il faut ajouter un deuxième élément, plutôt de court terme. Ça veut dire que ces élections-ci et l'exploit de l'extrême droite se jouent quand même dans le contexte de l'année 2015.
Bien sûr, celle de l'immigration.
Et il faut rappeler quand même que la Suède a été, en 2015, pendant la crise migratoire, a été le tout dernier pays à avoir fermé ses frontières. Ouais. Et je pense que le gouvernement suédois a compté jusqu'au bout sur une solution européenne au problème. Cette solution n'était pas venue. Donc, ils se sont retrouvés dans une situation bizarre où, finalement, après une ouverture initiale, ils ont fait un revirement. Ça a été mal géré politiquement. Aujourd'hui, ils payent les prix. Néanmoins, vous voyez, en 2 ans, donc 2014-2015, la population suédoise a cru de 2,5%. C'est considérable. Donc, évidemment, ça génère des problèmes. Néanmoins, je suis plutôt confiant dans le long terme.
C'est là que je vous emmenais, en fait. L'extrême droite, elle existe depuis très longtemps en Suède. Par ailleurs, on y revient. Viendra tout à l'heure après le reportage d'Élise Delève, c'est pas une nouveauté, l'extrême droite même très dure,
absolument.
À tendance nazie réellement. Et puis il y a la vague migratoire de 2015. Est-ce qu'on peut rappeler combien il y a eu d'accueil d'ailleurs de la part des Suédois? On est autour du demi-million, autant que je sache, 400, peut-être plus, vous allez me le dire.
Alors, ces deux années-là, alors déjà 2014, l'année d'avant, a été jugée exceptionnelle, c'était 80 000 réfugiés qui sont entrés, et l'année d'avant, c'était 160 000. Donc en tout, dans l'espace d'à peine 2 ans, la Suède donc a accepté des 160 000 et ça représente donc environ 2,5%. Donc si vous transposez ça, la population, donc si vous transposez ça à la France, ça reviendrait à 1 200 000 à peu près. Donc c'est un effort quand même considérable.
Mais est-ce qu'il y a des raisons objectives de crainte de la part de la population suédoise ou est-ce qu'on est finalement dans le même genre d'ordre d'idées qu'on trouve et en Italie et en Autriche et ailleurs? Est-ce qu'il s'est passé réellement des choses autour de ces migrants? Est-ce qu'il y a eu des faits divers ici et là? Est-ce qu'il y a objectivement une mauvaise intégration? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un certain nombre de faits objectifs qui font que les gens sont dans un état de défiance? Ou est-ce qu'on est simplement dans cette bonne vieille idée, pardon, mais qui traverse toute l'Europe, attention, migrants, danger?
Il y a eu beaucoup de faits divers, effectivement, mais bon, les statistiques sont claires. Il n'y a pas eu une explosion de la criminalité en Suède. Simplement, la vie médiatique de ces faits divers-là, ça n'a rien à voir avec la statistique. Donc, c'est exploité sans merci par ces mouvements-là, qui exploitent aussi justement ce sentiment que ça vient au moment même où les conditions sociales se sont dégradées, et ils exploitent, ils opposent par exemple les retraites, les prestations sociales aux immigrés. Ils disent il n'y a plus d'argent pour les retraites, il n'y a plus d'argent pour les prestations sociales parce qu'il y a trop d'immigrés. Donc c'est vrai que ces arguments-là, c'est ça qui fait leur 20% aujourd'hui.
À quoi ça ressemble alors cette montée du populisme anti-immigré en Suède? On va le voir tout de suite grâce à vous. Bonsoir Élise Delève.
Bonsoir.
Vous êtes arrivée il y a quelques jours, vous allez couvrir pour nous ces élections de dimanche. Racontez-nous donc tout simplement ce qu'on sent dans la rue chez vous, en fait, quand ça se passe, cette campagne électorale.
Alors moi je suis allée à Eskilstuna, qui est à une centaine de kilomètres de Stockholm, c'est une petite ville, et comme partout en Suède, il n'y a pas de tract, pas de porte-à-porte, on fait pas ça ici, mais tous les partis installent des petites cabanes sur les places centrales des villes, et ils accueillent les gens, ils discutent, ils sont vraiment côte à côte, et parfois ils discutent même entre eux, et là j'ai croisé Bou, c'est un jeune retraité qui était assis sur un banc et qui profitait du soleil et qui m'a expliqué pourquoi lui, il allait choisir l'extrême droite dimanche.
La Suède est devenue trop libérale. Regardez ces Somaliennes comme elles sont habillées avec leur voile. Comment voulez-vous qu'on veuille les employer ici? Ça ne peut pas fonctionner. On ne leur impose pas assez de conditions pour s'intégrer.
Mais nous, en France, on a l'impression que justement, en Suède, on accueille tout le monde et c'est un peu le pays du bonheur, quoi.
Det ser jag dem i Afrika.
Oui, c'est l'image que la Suède a en Afrique aussi. Et tout le monde veut venir ici. Tout le monde sait qu'on offre un logement et des allocations. Moi, je pense qu'il faut plus de règles.
Alors, pour recontextualiser un petit peu, sachez qu'en 20 ans, la part des immigrés dans la société suédoise est passée de 2 à 15%. L'immigration des années 80, c'était celle des pays de l'Est. Le symbole, c'est la superstar Zlatan Ibrahimovic. Mmh. Celle-là, elle ne pose pas de problème à Bo ou à Anke. Anke, c'est une infirmière que j'ai rencontrée et qui m'a dit que l'immigration qui l'a dérangée plus tôt, c'était l'arrivée des Syriens en 2015.
Il y a une explosion des demandes de soins. Il faut faire la queue désormais pour être soigné. En plus, ce sont des gens qui arrivent souvent avec des problèmes psychiques et des pathologies nouvelles. Ça augmente la pression sur les services.
Ah, c'est vraiment la crise migratoire de 2015 qui a fait basculer l'opinion suédoise. Vous en parliez tout à l'heure. Juste pour cette année-là, 160 000 Syriens sont arrivés. Et c'est une politique d'ouverture qui s'est retournée contre la gauche au pouvoir. Une gauche coincée entre une population mécontente et une extrême droite séduisante. Alors le Premier ministre, eh bien, il a droitisé son discours et du jour au lendemain, il a fermé les frontières et restreint drastiquement le droit d'asile. Maria Alias est candidate députée de gauche et elle assume.
La Suède n'a pas accepté trop de Syriens, mais elle n'était pas préparée pour en accueillir autant en une seule année. Et pour moi, fermer les frontières, c'est une vraie décision politique de gauche. Cela va permettre de prendre en charge et d'intégrer correctement tous les gens qui sont venus sur notre territoire.
Ce retournement politique va-t-il suffire pour contrer l'extrême droite? En tout cas, les démocrates suédois ont déjà une victoire. Ils ont réussi à centrer le débat sur leur thématique préférée, l'immigration, ce qui n'était jamais arrivé en Suède. Et ils ont un argument tout trouvé. Au lieu de choisir la copie, prenez l'original.
Allez, merci beaucoup Élise Delève. Vous allez, et merci à Clémence Bonfils aussi qui est avec vous. Vous allez suivre ça évidemment pour nous, pour France Inter dimanche. Et finalement tout ça, Wojciech Kalinowski n'est pas très différent de ce qu'on entend en Italie, de ce qu'on entend en Autriche, de ce qu'on entend partout. On le disait tout à l'heure, l'extrême droite suédoise, elle existe depuis très longtemps. Elle a même été très proche des partis nazis. À quoi elle ressemble aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une volonté d'adoucir le discours, de le rendre plus accessible? Qui sait ce... j'oublie son nom subitement, mais ça va me revenir.
Jimmy Åkesson.
C'est ça, Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson,
c'est un web designer.
Exactement, qui est ce monsieur, jeune garçon, par ailleurs.
Jeune garçon qui a su, disons, porter ses partis, parce que c'est vrai qu'il a des origines clairement nazies, mais ça, déjà, c'est des franges très très limitées de la société, évidemment, ça n'a rien à voir avec le score actuel. Mm-hmm. Donc c'est Jimmy Åkesson, c'est surtout lui qui a su transformer ses partis en insistant beaucoup plus sur, disons, sur le programme social, même s'il est très 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 creux, ce programme social, mais justement sur cette façon d'opposer les prestations sociales et les immigrés. C'est vrai qu'ils sont entrés au Parlement en 2010, ensuite ils ont doublé les scores 4 ans plus tard, et maintenant ils vont encore faire un exploit. Néanmoins, je pense, dans ces élections-ci, néanmoins, je pense qu'on assiste à un pic de ces mouvements-là. Mmh. Parce que...
Vous savez, on l'a dit du Front National en France, beaucoup. Le pic était à 20, le pic était à 30.
Le pic, on ne sait jamais. C'est vrai, il faut toujours se méfier des prévisions trop radicales. Ouais. Néanmoins, moi, je suis plutôt confiant dans l'avenir parce que il y a derrière tous ces agissements-là, il y a des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que, par exemple, il y a bien une politique d'intégration suédoise. Évidemment, ça, elle peut pas empêcher tous les faits divers dans toutes les banlieues tout de suite. Néanmoins, si vous regardez le taux d'emploi des immigrés, il augmente pour les arrivants, pour les gens qui viennent d'arriver, il est évidemment très bas, mais au bout de quelques années, il augmente nettement. Donc c'est le résultat d'une politique de soutien à l'apprentissage des langues et beaucoup d'autres politiques.
Mais ce que ça veut
dire
aussi,
c'est plutôt efficace.
Ce que ça veut dire aussi, c'est que fermer les frontières est une politique de gauche, comme on l'a entendu dans le reportage d'Élise à l'instant, c'est quelque chose qui est finalement partagé par tout le monde.
Si vous voulez, après 2015, effectivement, il y a un consensus sur deux points. Et le premier point, c'est que les gens qui sont entrés, ils vont rester. Mmh. Et le deuxième point, effectivement, qu'il faut
qu'il y en a plus, arrêter. Il ne faut plus qu'il y ait des gens qui rentrent.
Ouais. En tout cas, si vous voulez, le taux d'entrée, enfin, ont été ramenés au taux d'avant. Ça veut dire 20 000 par an à peu près. Donc, c'est pas une frontière complètement fermée. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que c'était aujourd'hui, de ce point de vue-là, évidemment, la percée de l'extrême droite a complètement changé le discours de tous les partis. Mmh. Les sociaux-démocrates en premier. C'est vrai que j'ai entendu hier l'ancien Premier ministre suédois critiquer son propre gouvernement pour cette politique de 2015. Donc c'est vrai que ça fait parler beaucoup. Et donc il y aura sans doute une pause. La Suède attend aussi des règles européennes en la matière. Et donc il y a sans doute une pause dans la politique d'immigration. Mmh. Et le consensus, c'est que maintenant, il s'est focalisé sur l'intégration. Et là, je pense que cette intégration, elle se fera, elle sera assez coûteuse pour l'État sociale, mais elle va produire des résultats. Donc, vous savez, moi j'ai grandi dans une Suède des années 80 où j'étais le seul immigré, non seulement dans ma classe, mais dans toute l'école. Mm-hmm. Et aujourd'hui,
mais
c'est
vous
pas
êtes immigré européen, monsieur Kalinowski,
oui, absolument.
Et c'est pas
absolument.
Pareil.
À l'époque, dans cette
donc,
école-là,
excusez-moi, vous êtes un bon immigré. J'ai mis des guillemets, j'espère qu'on les avait.
Je ne me compare pas avec les gens qui viennent d'arriver. Ouais. Pas du tout. Je dis simplement que c'était une transformation culturelle très très rapide. En 20 ans, ce pays a vraiment été profondément transformé. Et effectivement, ça va produire des problèmes, mais la démocratie suédoise est assez stable pour gérer ces problèmes. J'en suis absolument confiant.
Une dernière chose, Wojciech Kalinowski, on a l'impression qu'on parle... Par ailleurs, là aussi, c'est un peu comme partout, mais de la Suède des villes et la Suède des campagnes, en fait, qui ont un mal fou à se retrouver, finalement. Et que la Suède des villes, toujours à gauche, toujours partisane d'ouvrir les frontières, et la Suède des campagnes qui, elle, voit les choses de manière extrêmement différente, parce que son pouvoir d'achat dit aussi des choses différentes. Est-ce que c'est aussi basique que ça, finalement ?
Et alors, la Suède des villes, celle qui prend toujours l'ouverture, elle s'est rétrécie quand même un peu dans ces moments précis. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a quand même un consensus assez large sur qu'il faut faire une pause dans l'immigration pour se consacrer à intégrer les populations qui sont déjà venues. Donc je pense que il y a sans doute les partis des Verts qui s'opposent à ça, mais sinon il y a un consensus gauche-droite sur cette ligne-là.
Les élections, c'est dimanche. On les suit évidemment avec beaucoup d'intérêt sur France Inter. Wojciech Kalinowski, merci mille fois. Vous êtes co-directeur de l'Institut Veblen. Vous avez écrit Le modèle suédois et si la social-démocratie n'était pas morte. Et vous avez d'ailleurs tenté de nous le démontrer. Merci beaucoup.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde en Russie avec les retraités qui protestent contre la réforme de Vladimir Poutine. Vous verrez comment on vit un retraité en Russie sous les radars et Amélie Perrier avec notamment une statue de Saint-Antoine de Padoue que les Colombiens ne reconnaissent plus parce qu'elle semble maquillée depuis sa restauration et ça va pas du tout. L'Europe avant le vote. Bonsoir Bruxelles, 18h50, Johanna Hochstein qui nous explique pourquoi l'Europe a perdu le marché des panneaux solaires, figurez-vous. Et puis le monde à l'envers, bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Kosovo, Serbie, frontières, le mot frontière.
C'est le grand tabou dans cette région explosive que sont les Balkans. Va-t-on toucher aux frontières ? Début de réponse demain à Bruxelles.
Alors, et avant cela, votre avis à 18h55 tout à l'heure, direction Los Angeles, dans Un jour dans le monde. Voici Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.
I'm not afraid to
Bon, d'accord. Alors, je me suis trompée. Je me suis fait engueuler partout autour de la table.
Ça,
voilà, Amélie Perrier. Non, mais je suis désolée. Je m'excuse. C'était parc de course.
Là, il est pas là, là.
Wide Awake. Mais on l'écoutera, le Preacherman, tout à l'heure, dans Un jour dans le monde. Allez, quoi.
France Inter.
Good evening and welcome.
Irresponsible Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Allez, Amélie Perrier, sous les radars, avec l'info cachée dans les recoins de la planète. On commence en Colombie. Amélie, on se dispute autour d'une statue là-bas, une statue de Saint-Antoine de Padoue.
Le problème à Soledad, dans le nord du pays, c'est la restauration de la statue. Les artisans y sont allés un petit peu fort sur les couleurs du visage apparemment, au point que le Saint-Antoine paraît maquillé pour certains. Et à l'église, ça ne passe pas. Écoutez ce fidèle.
Para mí es una falta de respeto.
Pour moi, c'est un manque de respect. Ils nous ont fait un Saint-Antoine comme un homosexuel, alors que c'est pas le cas. Notre saint patron a 205 ans, et là, c'est pas du tout à son image. Son visage est totalement différent, les sourcils épilés, la figure fardée, les lèvres maquillées, tout le visage est maquillé. Pour nous, c'est un sacrilège. Voilà, les autorités locales ont lancé une enquête pour retrouver le restaurateur coupable. Et un autre artisan a proposé de rendre à ce Saint-Antoine une virilité apparemment mise à mal. Le site Committed, qui rapporte l'histoire, lui, appelle à prier Sainte Rita, patronne des causes désespérées face à ces brebis égarées dans leur homophobie.
Allez, à Londres, une bien curieuse enquête a été ouverte par les autorités.
Une enquête pour retrouver là qui a installé des affiches sur les arrêts de bus, des affiches portant ce message en anglais. Israël est une entreprise raciste. Les affiches sont apparues la veille de l'adoption par le Parti travailliste de sa définition de l'antisémitisme. Une définition très polémique au sein du mouvement. Cet été, le Labour avait adopté la définition établie par l'Alliance internationale pour le souvenir de l'Holocauste en rejetant 4 exemples qui l'accompagnaient, des exemples de comportements antisémites. Le parti et surtout son chef, Jeremy Corbyn, ont alors eu à se défendre face aux accusations de la communauté juive. Voilà comment il était contraint de se justifier il y a quelques semaines. Je veux qu'on s'occupe de l'antisémitisme dans notre société, dans notre parti, ça me concerne aussi. Et ce que l'on a fait là, c'est une tentative honnête de dire qu'on ne tolérera pas l'antisémitisme. On doit pouvoir débattre d'Israël et de la Palestine, mais ça ne doit jamais prendre une quelconque forme antisémite. Quant aux affiches à Londres, taxant l'État hébreu de racisme, elles sont strictement interdites, a rappelé le maire de la capitale, Sadiq Khan. Lui aussi, il est travailliste, mais pas vraiment proche de Corbyn et de ses positions pro-palestiniennes.
Merci d'avoir passé ce vol avec nous. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage.
Vous le faites très bien, hein, Fabienne, ouais, l'hôtesse de l'air. Là, c'est sûr que non, en fait, pour les passagers d'un Dubaï-New York. En fait, plus d'une centaine de passagers se sont plaints de toux, de fièvre, de vomissements. 10 ont été hospitalisés. Des ambulances ont envahi le tarmac de l'aéroport JFK pour cette alerte santé d'une ampleur rare. Il s'agirait a priori d'une grippe exceptionnelle qui a contaminé ce vol de la compagnie Emirates avec plus de 500 passagers à son bord. Oui, quand même. Et là, vous me demandez, Fabienne, pourquoi je vous passe ce titre?
Oui, pourquoi vous passez ce titre, Amélie?
Eh bien, parce que parmi les passagers, il y avait Vanilla Ice, le rappeur.
C'est parce qu'en vrai, vous voulez tout maîtriser de la musique dans cette émission.
Oui, j'aime bien faire la programmation aussi. Vanilla Ice, qui a posté sur Twitter le récit en direct et en photo de son vol avec ce genre de commentaires. C'est dingue, apparemment, il y a plus de 100 personnes malades à l'étage inférieur. Je suis content d'être en haut de l'avion. Certains twittos les plus acides n'ont pas manqué de poster qu'eux aussi seraient tombés malades s'ils avaient dû supporter un voyage entier avec le rappeur. Bon. D'autres n'ont pas manqué de relever qu'ils voyageaient donc en classe business à l'étage supérieur et de commenter la puissance d'une seule chanson.
C'est beau.
C'est beau.
Moi je dis c'est beau. Et en même temps je suis étonnée quand même que la grippe puisse atteindre 100 personnes d'un coup comme ça.
Eh ouais, c'est assez radical.
Sinon,
il se passe beaucoup de choses aussi à la Maison Blanche, on vous en parle dans les journaux en ce moment. Je voulais simplement vous signaler que pendant ce temps-là, Donald Trump continue de recevoir une conseillère juridique un petit peu particulière, Kim Kardashian. Elle est retournée pour la deuxième fois à la Maison Blanche pour participer à une discussion sur la réforme pénale. Oui, oui, Kim Kardashian, pour ceux qui seraient totalement coupés des réseaux sociaux, c'est cette star de télé-réalité américaine. Elle est suivie par plus de 110 millions de fans sur Instagram, par exemple. On la connaît pas vraiment pour son cursus en droit, mais en fait, elle s'est engagée pour faire libérer une femme de 63 ans condamnée à la perpétuité pour un trafic de drogue. Elle a obtenu sa sortie et elle se bat maintenant contre l'incarcération systématique, même pour les petits délits.
Voilà, Trump avec ça faire aujourd'hui que de recevoir Kim Kardashian, vous me direz pourquoi pas, et si ça se trouve, la taupe, C'est elle.
Vous voilà, qu'elle a
ça y est, c'est lancé à 18h42. On va revenir en tout cas tout à l'heure sur cette chasse à l'auteur de la tribune du New York Times. Ce sera dans le journal de Sébastien Pauvre tout à l'heure. Donc à 19h.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes France Inter.
Et c'est en Russie que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, dans la Russie des retraités, celle qui a travaillé toute sa vie, qui a vu arriver avec stupéfaction, en catimini, c'était pendant la Coupe du Monde, une réforme des retraites très impopulaire. Tout de suite, vous savez que Vladimir Poutine a fait une petite marche arrière. Bonsoir Claude Brouillot.
Claude, bonjour Fabienne.
Voilà, je me doutais bien que vous n'étiez pas loin, correspondant de France Inter en Russie. Claude, petite marche arrière donc, mais quand même, les hommes devront travailler jusqu'à 65 ans, alors que l'espérance de vie en Russie, elle est de 66 ans. Et les femmes qui partaient jusque-là à 55 ans devront travailler 5 années de plus. Chez vous, Claude, un retraité sur deux travaille encore après avoir dépassé l'âge légal, ça veut dire 10 millions de personnes. Tout ça pour compenser les très faibles pensions. On écoute votre reportage.
Nous sommes au quatrième étage du grand hôpital Gazprom à Moscou. Au milieu du couloir, le téléphone n'arrête pas de sonner et cela rassure Galina, 61 ans, ancienne hôtesse d'Aéroflot, en retraite depuis 6 ans, avec 200 euros de pension mensuelle de la compagnie. Elle se dit comme ça, dans son petit bureau de 10 mètres carrés, qu'on aura encore besoin d'elle quelques années à l'hôpital. Elle qui gère tout le mobilier non médical sur 3 étages, 40 heures par semaine. Un travail qui lui permet de gagner 400 euros chaque mois, en plus de sa pension.
Конечно, можно попробовать. Но на одну пенсию я еще не пробую жить.
Bien sûr que je pourrais essayer de vivre sans mon travail, mais je n'ai pas envie d'essayer avec un seul revenu. J'ai toujours travaillé, je suis toujours active.
Мне деньги нужны еще на всякие путешествия. Я бываю в разных местах.
Mais j'ai encore besoin d'argent pour voyager. Je sors, je fais du sport, comme par exemple de la marche nordique. Je vais à la piscine, mais tout ça coûte de l'argent.
На это тоже нужны материальные затраты. И в связи с этим я тоже работаю, и из-за этого тоже.
Galina est fière de son travail, elle refuse par pudeur de parler de ses premières années de jeune retraitée quand elle devait faire les ménages pour s'en sortir. Pas question non plus de critiquer la réforme des retraites de Vladimir Poutine.
Actuellement, nous avons besoin de cette réforme. Il faut faire quelque chose avec le montant des retraites, avec l'âge du départ à la retraite. Je crois que le moment est venu pour ça. Les gens qui ne peuvent pas trouver de travail, et donc de revenus supplémentaires, je crois qu'ils ne font pas assez d'efforts pour ça.
À une heure de train au sud de Moscou, la ville de Podolsk, 250 000 habitants, où nous attend une autre Galina, 71 ans, handicapée, qui vit avec un seul poumon dans un deux pièces d'une cité des années 60. Par commodité, Galina a préféré nous recevoir dans la datcha de sa nièce, où elle vient se reposer et surtout tromper la solitude. Galina a travaillé toute sa vie dans des jardins d'enfants. Et à l'heure de la retraite, il y a 16 ans, elle a continué à faire de l'animation dans une maison de la culture de Podolsk, par passion, mais aussi par nécessité, parce que ses 180 euros de retraite ne lui suffisaient pas pour vivre. Et puis sa santé fragile l'a obligée à arrêter toute activité, la privant des 200 euros mensuels qu'elle percevait en plus de sa pension. Galina dit accepter son sort, et la réforme des retraites va lui apporter une augmentation de pension de 13 euros par an pendant 6 ans. Alors elle dit dans un large sourire qu'en Russie, la dépression nerveuse, c'est d'abord un péché.
Je n'ai pas une grosse pension, mais je vis modestement. Je ne peux pas faire ce que je voudrais, comme par exemple aller au théâtre. Quand je travaillais, je pouvais me faire plaisir. Mais ma fille doit m'aider. Elle m'aide pour acheter les médicaments, payer les docteurs. Les réformes, ce n'est pas agréable. Notre économie en a besoin. Bien sûr, j'aurais voulu que ma fille parte à la retraite à 55 ans. Maintenant, elle partira à 60 ans, selon la nouvelle loi. Mais la vie est comme ça. Notre Russie était le dernier pays qui n'avait pas encore augmenté l'âge de départ à la retraite.
Cette capacité qu'ont les Russes à tenir le choc en général, comme Galina, ne s'est pas démentie jusqu'à cet été, quand les manifestations contre la réforme des retraites voulues par Vladimir Poutine ont commencé, initiées notamment par les communistes.
Je vous remercie à chacun de vous pour que vous êtes venus ici.
Mais le projet a fait son chemin malgré tout. Il est juste vital pour les finances publiques de la Russie, qui n'arrive plus à suivre l'augmentation du nombre de retraités. Ils sont aujourd'hui 46 millions sur les 145 que compte le pays. Piotr Tolstoï est un descendant de Léon Tolstoï, mais surtout aujourd'hui vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, membre de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, dont il défend la réforme.
Aujourd'hui, pour une personne en retraite, il reste seulement deux qui travaillent. Le système que la Russie a eu pour les retraites, c'est le système des années 30. Donc, ça peut pas durer à 21e siècle. La mode de vie a changé. Les gens veulent travailler plus. Les gens âgés sont beaucoup plus actifs qu'à l'époque. Mais à mon avis, le président Poutine a trouvé une façon très juste à expliquer la responsabilité du pouvoir de prendre cette décision, parce que sinon le problème risquait amener à une crise des retraites dans 10 ans.
Piotr Tolstoï fustige aussi les opposants à la réforme des retraites. Il rappelle que le plus célèbre d'entre eux, Alexei Navalny, à nouveau emprisonné 30 jours officiellement pour non-respect des règles d'organisation d'une manifestation, avait inscrit selon lui dans son programme l'augmentation de l'âge du départ à la retraite. Dans un restaurant japonais, près de Moscou City, le centre d'affaires de la capitale russe, Dmitri Goudkov, lui, voit les choses autrement. Ce trentenaire, à l'allure de playboy avec ses lunettes de soleil, s'oppose lui aussi à la réforme des retraites, mais pour d'autres raisons. Ancien député comme son père, implanté dans le secteur florissant de la sécurité sur Moscou, il combat la politique de Vladimir Poutine avec le parti Yabloko, en misant sur le fait que cette fois, la baisse de popularité de Vladimir Poutine, constatée depuis 2 mois, va bien au-delà d'un simple mouvement d'humeur de la population.
Même s'il n'y a pas de protestation massive, il y aura un changement d'humeur de l'opinion publique. Et cela aura des conséquences politiques dans le futur, sans qu'on sache lesquelles. Jusqu'où ira la baisse de popularité du pouvoir? Il arrive en Russie qu'il y ait 60, 70, 80% de soutien. Et puis ça tombe. Je crois qu'il y a en ce moment des changements fondamentaux dans la conscience du public. La désacralisation de Poutine a commencé, tout comme la déception vis-à-vis du pouvoir.
Dimanche à Moscou, notamment, les opposants à la réforme des retraites sont à nouveau appelés à descendre dans la rue. Une provocation pour le Kremlin, qui estime donc avoir adouci la pilule en augmentant les pensions. Et alors même que se dérouleront ce jour-là des élections municipales, à l'occasion desquelles d'ailleurs le candidat du pouvoir est déjà assuré de renouveler son bail.
Vous l'avez entendu comme moi, la désacralisation de Vladimir Poutine, dit cet intervenant dans le reportage de Claude Brouillon. On verra si ça se vérifie comment. Toujours passionnant à suivre. En tout cas, merci beaucoup Claude à Moscou pour Un jour dans le monde. Merci de nous écouter. Bonne soirée. Restez avec nous. C'est à Bruxelles que l'on file.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati. Per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Geniale.
Le rendez-vous du jeudi avec l'Europe dans Un jour dans le monde et Johanna Hochstein à Bruxelles. Bonsoir Bruxelles et bonsoir Johanna.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Johanna, la filière du photovoltaïque en Europe est particulièrement inquiète. C'est ce que vous allez nous raconter. Ce sont ceux qui construisent les panneaux solaires. Et ces gens craignent de se faire avaler par les Chinois, tout simplement, depuis que la Commission européenne a décidé de lever les barrières douanières imposées aux panneaux solaires chinois. Il faut nous raconter ça, Johanna. D'abord, c'était quoi ces barrières, ces taxes pour les Chinois, datait de quelle époque?
Alors, Fabienne, il s'agit de l'un des plus grands litiges commerciaux entre l'Union européenne et la Chine. L'affaire remonte à 2013. À l'époque, les entreprises européennes qui fabriquent des panneaux solaires ferment les unes après les autres. Plus de la moitié des firmes du secteur ont déjà fait faillite. En cause, l'ogre chinois. La Chine, qui est le premier producteur de panneaux solaires au monde, exporte ses produits en très grande quantité vers l'Europe à des prix défiant toute concurrence. La Commission européenne lance une grande enquête et conclut à du dumping. Pour sauver la filière européenne, la Commission impose donc de lourdes taxes sur les produits chinois. La réaction de Pékin ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement annonce des mesures de rétorsion contre les Européens en ciblant notamment le secteur du vin en France.
Voilà, donc prêté pour un rendu. Aujourd'hui, le secteur du photovoltaïque, Johanna, en tout cas en Europe, se porte mieux ou pas ?
Eh bien non, figurez-vous, Fabienne, parce que les entreprises européennes continuent de fermer. Elles ne seraient plus qu'une quarantaine sur le vieux continent, contre 70 en 2013, avant l'imposition des mesures européennes. Explication des fabricants basés en Europe, en fait, la Chine aurait réussi à contourner les restrictions imposées par l'Union, notamment en faisant transiter certains produits chinois par d'autres pays asiatiques, Taïwan et la Malaisie notamment, pour éviter de payer des droits de douane.
Alors, pardon pour la question naïve, mais puisque le secteur ne va pas mieux, pourquoi la Commission européenne a supprimé les surtaxes qui étaient imposées sur les panneaux solaires chinois ?
Alors c'est pas naïf du tout. En fait, ce que dit la Commission, c'est qu'il y a d'abord des raisons environnementales. L'Europe s'est fixé de nouveaux objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Impossible à atteindre ces objectifs avec des panneaux photovoltaïques qui coûteraient trop cher. Ensuite, deuxième raison, parce que le dispositif, ces mesures ont joué leur rôle selon l'exécutif européen, c'est-à-dire que les prix à l'importation se sont alignés sur ceux du marché mondial. Enfin, dernière raison, parce que ces mesures pénalisaient une partie du secteur. Les fabricants sont en colère, sont inquiets, mais pas les installateurs de panneaux solaires, toujours à la recherche de produits le moins cher possible.
Sauf qu'en levant les barrières douanières, la Commission européenne signe l'arrêt de mort d'une filière industrielle qui est évidemment une filière d'avenir et de très haute technologie.
Oui, c'est tout à fait ce que disent les producteurs européens de panneaux solaires. Selon eux, les produits chinois vont inonder le marché européen, d'autant plus que la Chine n'a pas vraiment d'autres débouchés pour écouler ses capacités excédentaires, les États-Unis et l'Inde ayant imposé de lourdes barrières douanières sur ces produits. Alors cet épisode montre en tout cas l'absence manifeste de politique industrielle au niveau européen. Et ce n'est pas la première fois que les observateurs des institutions européennes font ce triste constat. Déjà à la fin des années 2000, souvenez-vous Fabienne, quand l'Europe proposait de se débarrasser des ampoules traditionnelles, les ampoules à incandescence, parce que très énergivores, elle oubliait de prendre en compte le fait que les industries européennes ne fabriquaient pas encore d'ampoules à basse consommation, et qu'il faudrait donc les importer de Chine.
Merci beaucoup Johanna Hochstein dans Un jour dans le monde, la chronique d'avant-élection européenne, l'Europe telle que vous la vivez au quotidien. Donc eh bien voilà un exemple de comment ça marche parfois un petit peu sur la tête. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. C'est une rencontre, Jean-Marc, que vous nous racontez aujourd'hui, hautement symbolique. Elle va se dérouler demain à Bruxelles, donc toujours sous l'égide européenne, des négociations entre les présidents serbes et kosovars. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ces pays-là, ni prononcé ces noms-là, avec un sujet au cœur des négociations, un sujet réellement tabou depuis deux décennies, les frontières dans les Balkans. Et les deux présidents, Jean-Marc, veulent mettre fin à ce tabou. Et c'est à vous pour votre monde à l'envers.
Le plus extraordinaire, c'est que ces deux-là ne s'aiment pas. Aleksandar Vučić, le Serbe, Hashim Tači, le Kosovar, le disent et ils l'assument publiquement. On ne s'aime pas. Mais ils ajoutent aussitôt, ce n'est pas une raison pour ne pas faire la paix. Et depuis trois mois, ils ont donc entamé un rapprochement spectaculaire et certains diplomates occidentaux avancent même des comparaisons audacieuses du style Mandela de Klerk lors de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. On n'en est pas là. Mais l'espoir de paix existe. Au départ, tout oppose ces deux hommes. Ils se sont tirés dessus au sens premier du terme. On est à la fin des années 90. C'est la guerre au Kosovo, ce petit territoire de la taille à peu près d'un département français, au cœur des Balkans, au sud de la Serbie. Vučić fait alors partie des ultranationalistes serbes. Et Tači, lui, c'est un chef nationaliste kosovar. Les combats font 13 000 morts. L'OTAN finit par intervenir. D'ailleurs, sans mandat de l'ONU, soit dit en passant. La France fait partie de l'opération. Et un peu plus tard, le petit Kosovo, avec sa forte majorité albanaise et musulmane, devient indépendant. 145 pays l'ont maintenant reconnu. Mais pas la Serbie voisine, à majorité chrétienne orthodoxe. C'est un conflit larvé. Et ça arrive parfois, ce sont donc les anciens acteurs de la guerre qui deviennent les acteurs de la paix. Les deux adversaires militaires d'hier sont désireux que leur pays accède à l'Union européenne. Ça ne se fera pas sans la paix. Donc les voilà qui sortent du chapeau la fameuse idée interdite. Un changement de tracé des frontières. Un troc en fait. Le nord du Kosovo, Mitrovica, qui compte 120 000 Serbes, contre l'extrême sud de la Serbie, la vallée de Presevo, qui compterait à peu près 50 000 Kosovars. C'est un vrai tabou en effet dans la région et dans les relations internationales depuis 20 ans.
Mais alors pardon, pourquoi c'est le monde à l'envers, Jean-Marc? Pourquoi c'est un tabou?
C'est simple, ça va à l'encontre de toutes les idées reçues sur le sujet, en effet, depuis deux décennies. Et ça va à l'encontre de fortes oppositions politiques à l'intérieur des deux pays, mais aussi à l'extérieur. Commençons par l'intérieur. Au Kosovo d'abord, de très nombreux députés menacent le président Tachi d'une motion de défiance. La pression nationaliste est forte. Ça, c'est pour les laïcs, l'opposition officielle. Et il y a aussi une pression religieuse plus souterraine, avec l'essor dans le pays de mouvements musulmans salafistes, peu enclins au dialogue avec les chrétiens serbes. De l'autre côté, en Serbie, c'est l'effet miroir, si vous voulez. Cette fois, c'est l'église orthodoxe qui mène l'opposition à un redécoupage des frontières. Elle annonce déjà des manifestations. Sa position est simple. Le Kosovo tout entier appartient à la Serbie. Ça va même plus loin. Le Kosovo, c'est la terre de grands monastères orthodoxes. C'est donc une sorte de Jérusalem serbe. Et les militants ultranationalistes ne veulent donc pas entendre parler d'un troc. Pour eux, ce serait la Bérézina, une défaite en race campagne.
Mais vous disiez qu'il y avait aussi une opposition à l'extérieur.
Et le tabou est tout aussi fort. L'Europe a été traumatisée par les années sanglantes dans les Balkans, au cœur du continent. Les Allemands en particulier sont très inquiets à l'idée que l'on puisse rouvrir le dossier des frontières. Ils y voient une sorte de boîte de Pandore. Pourquoi ? Parce que d'autres minorités ailleurs dans la région pourraient revendiquer à leur tour. Les Serbes de Bosnie en particulier, mais aussi la minorité albanaise en Macédoine, voire la minorité hongroise en Voïvodine. C'est une région de Serbie. Et Berlin considère qu'il ne faut pas aller vers des pays ayant chacun une sorte d'homogénéité ethnique et religieuse totale parce que ça serait la voie vers la guerre. La Russie n'est pas chaude non plus, mais alors pour des raisons très différentes, parce que Moscou trouve assez utile finalement que se maintienne comme ça aux portes de l'Europe une zone de tension larvée avec pauvreté, chômage et corruption à la clé, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais pour la première fois, l'idée du troc des frontières a aussi ses supporters. Les États-Unis d'abord. Et ils sont écoutés au Kosovo, ils sont populaires. Il y a même une statue de Clinton à figurez-vous à Pristina, la capitale. La France ensuite, alliée de Trump pour le coup sur le sujet. Même si Paris ne le dit pas officiellement, on estime quand même globalement au Quai d'Orsay qu'il faut avancer vu la volonté des deux présidents serbes et kosovars. On se résume, toucher aux frontières dans la région, c'est risqué. Ça peut être une plongée dans l'abysse, ça peut être aussi un coup de génie. En tout cas, ça s'appelle un pari politique.
Le Monde à l'envers, signé Jean-Marc Four, tous les jours dans Un jour dans le monde. Le 18-20, la suite c'est le téléphone sonne juste après le journal de Sébastien Paour.